Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris, je te quitte le podcast. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogations, freins et doutes au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leurs expériences qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation. Pour cet épisode un peu différent, je reçois Laurent. Si Laurent est bien un ancien parisien qui a quitté la capitale pour goûter aux joies et aux surprises d'une vie à la campagne, il est surtout le cofondateur de Déviation, un média qui, comme Paris je te quitte, s'intéresse aux changements de vie et donne la parole à ceux qui ont pris la tangente. Ensemble, nous avons réfléchi aux motivations et aux freins qui permettent ce changement et aux grandes tendances de notre époque qui, vous le verrez, vous laissent vraiment l'opportunité de vous lancer. Les meilleurs conseils d'un expert de la déviation qui poursuit lui-même plusieurs destins dans une même vie sont à découvrir dès maintenant. Bonjour Laurent, bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial de Paris, je te quitte le podcast.
Bonjour.
Alors du coup, entrepreneur, auteur, conférencier, historien, fondateur de réseaux d'influence, difficile, je dirais, de résumer les multiples vies professionnelles que tu as eues et que tu as encore. Il faudrait sûrement plusieurs épisodes passionnants, mais chez Paris, je te quitte, on a un petit penchant forcément pour les changements de vie, et ça tombe bien car nous te recevons aujourd'hui en tant que cofondateur de Déviation, un média digital mais aussi print, je crois, depuis peu de temps, qui est dédié justement aux changements de direction et aux récit de ceux qui ont osé se lancer.
Exactement.
Donc on va essentiellement parler de ces changements de vie aujourd'hui. Et est-ce que tu peux justement nous dire comment s'opèrent ces déviations? Comment naît l'envie de changement? Est-ce qu'il y a des leviers, des freins? Et comment ça s'opère au sein d'un individu?
Alors, on va dire que les causes sont multiples, mais c'est vrai que les processus se ressemblent. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des ramifications, mais il y a quelques ramifications seulement. Hein, c'est pas un changement de vie par individu. Donc les causes, je dirais qu'il y en a d'abord une qui est assez importante, qui est que quand on est enfant, on rêve un petit peu sa vie et on hérite, j'allais dire, d'une vocation, qu'elle soit professionnelle ou même je vais me marier, j'aurai tant d'enfants, j'aurai un chien et j'aurai une maison, quoi. Et ça, on se construit cet imaginaire à une époque où on est absolument incapable de le vivre, hein, et de l'expérimenter. Donc on arrive à l'âge adulte, en tout cas à l'adolescence, avec un petit peu façonné par ces désirs qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Et après, on les expérimente, en fait. Donc il y a le premier cas, j'allais dire, de changement de vie ou de déviation, qui est, j'avais un objectif et puis j'y arrive pas. Bon, c'est pour ça qu'on appelait ça les déviations et pas autrement. C'est-à-dire que j'ai un itinéraire et puis bon, bah, il y a une route qui est coupée, je peux pas y aller. Comment je fais pour, je me perds un peu, et puis soit j'arrive à mon port, soit finalement.
Je change de destination.
Exactement. Donc ça, le premier point, c'est ça, c'est un petit peu, c'est d'expérimenter une forme d'échec ou en tout cas de renoncement qui arrive assez fréquemment parce que moi je ne suis pas astronaute, par exemple.
Voilà. C'est le rêve de beaucoup.
C'est le rêve de beaucoup, hein, d'être cow-boy, d'être champion de foot pour les garçons, beaucoup. Et puis, en fait, les élus sont très peu nombreux, voire ces postes-là sont tout à fait fantasmés quand on est gamin, et puis on se rend compte que finalement on a changé d'avis. Voilà. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième, c'est en expérimentant et en suivant ce chemin, qui est celui qu'on souhaite emprunter pour arriver au but fixé, ben on arrive au but, et là on se rend compte que, en fait, c'était pas du tout ce qu'on avait en tête. Parce qu'on a adopté, on va dire, l'opinion de quelqu'un qu'on a vu faire quand on était gamin, et on s'est dit, bah ouais, moi j'adorerais, puis on a complètement sous-estimé certaines choses et surestimé d'autres. Donc il y a des gens qui disent bah ouais super, moi je vais être chef d'entreprise, mais en fait non, c'est trop stressant, il y a problème de fin de mois, parfois faut prendre des décisions qui sont désagréables, parfois machin, donc j'aime pas ça, je le fais pas. Il y en a d'autres qui disent bah moi j'aurais bien aimé être infirmier, médecin ou je ne sais quoi, et qu'ils se rendent compte qu'ils ont quand même un problème avec la maladie, la mort, le sang ou des choses comme ça, bon bah faut pas le faire. Voilà. Et ça, en fait, tant que vous ne l'avez pas expérimenté, vous n'avez pas ressenti les émotions que génèrent ces activités-là, ou l'absence d'émotions, d'ailleurs.
C'est le décalage qu'il peut y avoir entre la projection qu'on en avait et la réalité qu'on vit.
Exactement. C'est le sujet entre l'intellectualisation et le sentiment, l'impression, et ça c'est très grégaire, hein, c'est quasiment animal, c'est quasiment biologique, hein. Quand on a peur, quand on se sent mal à l'aise, quand on se sent agressé, quand on est déçu, bon, en fait c'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, c'est que votre corps et votre cerveau va sécréter des hormones qui vont vous mettre dans un état X ou Y.
Donc là, on est vraiment dans l'émotionnel
voilà.
Et le physique.
Tout à fait. Et ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Donc deuxième élément, j'allais dire, de déviation par rapport à l'objectif rêvé, c'est finalement, je me rends compte que l'objectif n'est pas l'objectif, mais n'est qu'une étape. Et après, soit je m'y accroche parce que non, c'est pas possible, maintenant j'ai un statut social, parce que qu'est-ce que je vais raconter à mes parents, parce que faut quand même que je m'accroche, ça fait trop longtemps que j'investis sur ce machin, et donc on va rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus durable et qui peut d'ailleurs être nocif, mais qui peut aussi finalement dire voilà, je me suis accroché, puis j'ai trouvé la raison pour laquelle je m'accrochais et c'était très bien. Et d'autres qui disent non, bon, pff, allez, hop, next, on change et puis on s'adapte. Et je terminerai en disant après, il y a tous les accidents de la vie, heureux ou malheureux, qui font que un événement imprévu, forcément assez brutal, en tout cas inattendu, arrive et change les plans. Donc ça peut être la maladie, ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être au contraire une rencontre amoureuse qui fonctionne bien et puis vous changez. Il y a tout un tas de choses positives ou négatives qui font que c'est très compliqué de se projeter sur un long terme et que du coup il y a souvent des ajustements comme ça.
Ok, donc ça c'est vraiment les causes du changement. Ce qui peut être arrivé. Nous, on le voit régulièrement dans les témoignages qu'on fait. On parle souvent d'éléments déclencheurs. Donc, du coup, t'as notifié ces différents éléments. En fait, ça peut être les causes de changement. Mais est-ce que je crois que vous avez plus de 1000 témoignages recueillis en 5 ans. Est-ce que vous avez identifié en tout cas des dénominateurs communs, des facteurs qui font que, ok, ces choses sont arrivées, mais comme tu dis, il y a des gens qui vont rester dans la situation même si elle ne convient pas. Est-ce qu'il y a des éléments communs que vous avez pu identifier qui déclenchent la déviation chez les gens et qui se disent, bon, là, ok, je prends la tangente?
Alors, oui, il y a tous ceux que j'ai déjà cités, c'est-à-dire des éléments fortuits qui fait que tu changes de... T'as pas choisi de changer, mais tu changes. C'est ce que j'appelle les déviations subies. T'es médecin en Syrie, t'as ta clientèle, ta maison de campagne, tes enfants et tes habitudes, et il y a une guerre qui se déclenche et tu te retrouves en Allemagne, en France ou je ne sais où, sans emploi, sans logement et sans machin. Bon, je veux dire, la vie, elle change. Voilà. Pareil pour des gens qui ont un accident, pour des choses comme ça. Alors, ça peut être moins forcément dramatique que les deux exemples que je viens de donner, mais j'ai choisi ces exemples parce qu'ils étaient absolument évidents. Voilà. Donc ça, avec des amplitudes et des, j'ai dit, des ampleurs diverses, faut pas oublier que la vie, c'est pas que des choses qu'on a décidées, c'est aussi des choses qu'on subit et auxquelles on doit s'adapter ou pas. On est à une époque assez extraordinaire, quand on la compare aux autres, hein, parce que les gens, ils essaient toujours de comparer une époque ou un pays ou quelqu'un par rapport à l'absolu. Bon, par rapport à l'absolu, tout est plus nul. Tu vois. Mais par rapport aux époques précédentes, on a quand même un choix que beaucoup de générations n'avaient pas. parce que il y avait un déterminisme social, il y avait une mobilité géographique, amoureuse, ou une mobilité de classe qui était souvent beaucoup plus difficile à activer. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui auraient bien voulu changer, mais qui n'en avaient absolument pas la possibilité. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que on en parle plus de ce phénomène? C'est qu'aujourd'hui, on peut plus facilement. Alors, je dis pas que tout le monde peut, je dis pas que c'est aussi facile pour les uns que pour les autres, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'aujourd'hui, c'est globalement plus mieux compris, plus accepté, et on peut avoir des parcours qui soient plus divers qu'à une époque, où avant c'était très stéréotypé.
Et du coup, justement, ça me pose la question quand tu dis au final, est-ce que tout le monde peut changer? On se pose cette question justement, est-ce qu'il y a un profil des gens qui prennent la tangente, qui ressort un peu plus? Est-ce qu'on peut tous opérer une déviation à un moment? Est-ce qu'il y a quand même des prérequis pour que cette déviation fonctionne?
Alors, il y a plusieurs questions dans ta question.
Oui.
Donc, est-ce que tout le monde peut? La réponse est...
A priori, oui.
Dans l'absolu, oui. Il y a des gens qui disent moi je peux pas parce que j'ai ma maman qui est malade et je peux pas, il faut que je reste dans le même village et je peux pas prendre un job machin. Bon, on comprend, on se dit moi je serais dans le même cas, je dirais oui. Enfin, dans l'absolu, il y en a d'autres qui vont dire t'as qu'à lui dire que elle va à la maison de retraite et tu vis ta vie. Oui, c'est possible, mais on voit bien que c'est quand même un niveau de décision là-dessus qui va pas toucher tout le monde.
Voilà. On revient à la sensibilité aussi, à l'émotion de chacun.
Et en fait, tout est là. Tout est là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a, on se fait comme construction mentale, affective et sociale qui va nous mettre dans un système où on a ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'appelle le risque à rompre, hein, le risque à partir. À quoi je renonce en arrêtant ça? Et quand on construit... un environnement où tout est à sa place et on a nous-mêmes une certaine appréhension par rapport au risque de la nouveauté, et on a tendance à s'enfermer dans un truc qui fait que ça va pas, mais quand même j'ai l'impression que si je pars, en fait je peux pas partir. Voilà, j'ai l'impression que je peux pas. Je sais plus qui disait, on a l'impression qu'on n'a qu'une vie, mais c'est faux parce que le jour se lève tous les matins.
Voilà, on peut emmener plusieurs.
Exactement, on peut tout à fait dire, moi je fais ci, je fais ça, mais on est des animaux sociaux, des mammifères sociaux, on crée autour de nous, notre vie est faite d'interactions, de relations plus ou moins durables, etc. Et y en a, c'est difficile de les rompre comme ça parce qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Donc, oui, tout le monde pourrait techniquement, parce qu'il y a aujourd'hui des éléments de dépendance, de misère qui sont bien moindres par rapport à avant. Je peux vous dire, si vous étiez le serf d'un seigneur au 15e siècle et que vous décidiez de déménager parce qu'en fait vous avez vu une petite chaumière sympathique de l'autre côté de la vallée, y avait des mecs qui venaient vous prendre et puis qui vous tapaient dessus et puis voire pire, et qui vous ramenaient dans votre truc en disant que vous n'avez pas la liberté de le faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent. Ensuite, c'est quoi le sociotype, enfin le profil? Alors, sur les gens qui subissent, c'est tout le monde. Je dirais qu'il y a des différences un petit peu de nature entre ceux qui vont réussir à s'adapter et ceux qui ont vraiment beaucoup de mal. Et là, je dirais qu'en gros, il y a les dogmatiques et les pragmatiques. Il y a des gens qui ont une capacité à se dire on a tous des rêves, mais la vie c'est pas toujours des rêves, et je vais construire mon bonheur avec ce qui est atteignable et non pas souhaitable. Et puis il y a ceux qui vivent dans l'absolu, dans la théorie, dans le machin, et qui vont regretter toute leur vie que y ait quelques tâches dans leur existence, et ces gens-là vont avoir beaucoup plus de mal en fait à s'épanouir dans une vie qui a changé. D'ailleurs, on se rend compte, et c'est assez saisissant, que les gens qui regrettent leur vie d'avant n'étaient pas nécessairement heureux pendant qu'ils menaient cette vie d'avant. C'est-à-dire, c'est des éternels insatisfaits qui vont soit complètement idéaliser l'avenir en disant bon, pour que je sois satisfait, il me faut ça. Et puis quand ils ont ça, ils sont pas satisfaits et ils disent ouais, mais avant j'avais autre chose et c'était mieux. Mais ça, il y a des travaux assez poussés hein, qui sont en neurosciences, qui travaillent en psychologie, qui t'expliquent qu'en gros, t'as une jauge de bonheur, je dis une bêtise, hein, mais entre 0 et 10, tu vas être entre 3 et 5, mais tu vas être entre 3 et 5 toute ta vie. À un moment donné, tu gagnes au loto, tu rencontres l'être aimé, je sais pas quoi, tu montes à 8, et puis 2 ans après, t'es à nouveau entre 3 et 5. Voilà, c'est comme ça. Et puis, ils ont fait les mêmes études sur les gens qui étaient des accidentés de la route et qui, à qui on devait amputer une jambe, un bras et tout. Tu prends des gens entre, je dis une bêtise, entre 6 et 8 de bonheur. Ils vont descendre tout d'un coup pendant cette période-là à 2 ou 3. Et tu les retrouves, tout handicapés qu'ils sont, à un niveau de bonheur et de satisfaction de leur vie qui est revenu à leur normal à partir du moment où ils ont accepté ce truc-là. Donc, je dirais que il y a des facteurs en matière de personnalité et psychologique qui sont assez troublants, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui changent et qui ont parfois des vies un peu dramatiques, hein, c'est-à-dire des événements un peu graves quoi qui arrivent, et qui finalement vous racontent une vie heureuse, réussie, épanouie, qui arrivent toujours à trouver un sens à quelque chose et tout. Et il y en a d'autres, moi j'ai eu le cas de jeune femme qui avait tout pour elle, vraiment du boulot au diplôme, en passant par l'origine familiale, plein de choses, et qui était très malheureuse. Très malheureuse, voilà, c'est comme ça.
Et opérer une déviation ne la rendra pas forcément plus heureuse.
Alors après, c'est ça qu'on voit aussi, c'est que c'est marrant, parce que dans les témoignages, nous, on ne commande pas. Alors, on fait venir après des experts et on a parfois des avis d'experts. C'est-à-dire que tu racontes ta vie. Et tu racontes ta vie avec tes biais. Ce qui fait que c'est pas objectif. C'est la vision que j'ai moi-même de ce que je vais vous raconter. D'ailleurs, on a eu des commentaires de gens qui disent « Oui, je connais très bien cette personne, mais je peux vous dire c'est pas vrai. » Bon, nous, on n'est pas Le Monde, on n'est pas un journal sérieux, on fait pas du journalisme d'investigation pour savoir si ça c'est vrai, ça c'est faux et tout. On laisse la possibilité aux gens de raconter pourquoi ils ont changé de vie, ce qui inspire les autres et qui peuvent leur donner du courage pour se dire « Ah bah tiens, si elle l'a fait, si lui l'a fait, bah pourquoi pas moi ?» Voilà, ça c'est ça notre mission. Donc, on voit aussi des gens qui disent oh, « Avant, j'étais complètement comme ci, comme ça, etc. Et puis j'ai compris, et je me suis dit « Je vais changer. » Et en fait, en apprenant un petit peu à le connaître, parce qu'on fait des pré-interviews, des interviews très longues, etc. Parfois, on se dit, mais non, enfin, c'est juste quelqu'un qui a pas du tout changé son mode de fonctionnement. Il dit, avant, j'étais comme ça, mais il l'est encore. Voilà. Et moi, je me rappelle très bien de quelqu'un qui dit, avant, j'étais en fait un sale con, j'étais dans la société capitaliste, comme ci, comme ça, j'étais carriériste, j'étais comme ci. Bon. Et maintenant, je suis passé au développement personnel et tout. Et en fait, c'est exactement le même. Sauf que, avant, il faisait de la pub, maintenant, il fait du développement personnel. Enfin, avec les mêmes biais. Avec les mêmes biais. Voilà. Donc, hein, comme dit le poète du 3e siècle après Jésus-Christ, Céline Dion, on ne change pas.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que même si tu prends une déviation, tu restes dans le profil que tu étais. Ta situation change, mais tu ne changes pas radicalement la personne que tu as pu
être. Alors, il y a des changements, il y a des gens, il y a des évolutions, c'est très net. Mais il y a quand même beaucoup de constance. Alors, il y a parfois des chocs qui sont tellement importants, positifs ou négatifs, hein, qu'il peut y avoir, en tout cas pendant un moment, des changements radicaux. Moi, tout ce que je lis là-dessus, c'est que ça dure un moment et en vieillissant, on revient finalement à ça. De toute façon, en vieillissant, on ressemble de plus en plus à ce qu'on a été. Parce qu'on a été destiné à être, hein, c'est-à-dire biologiquement, beaucoup plus, parce qu'on est moins dans je vis une vie un peu héritée, parce que la société m'a demandé ça, parce que mes parents m'ont demandé ci, parce que je me suis fait une image de moi-même qui est comme ça, puis au bout d'un moment, on dit bon, à quoi bon, on fait moins d'efforts et on est plus spontané nous-mêmes, pour le meilleur et pour le pire, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens spontanément. Ils sont pas terribles. Voilà, donc c'était mieux quand ils faisaient des efforts. Mais il y en a aussi, spontanément, ils sont super et ils s'épanouissent et c'est super. Voilà.
Du coup, ça m'inspire deux questions. Ce que tu dis, c'est que donc à peu près, voilà, tout le monde peut opérer un changement. On est d'accord. On parle aujourd'hui beaucoup, comme tu dis, la période s'y prête aussi parce qu'on a cette liberté qui n'existait peut-être pas avant, à s'émanciper, à se libérer de contraintes sociales. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, de retour à des métiers manuels. Est-ce qu'il y a des déviations que vous observez aujourd'hui plus couramment qui sont peut-être liées à cette période et à ces changements induits? On parle de néo-ruralisme, de choses comme ça. Est-ce que vous observez des tendances sur les déviations qui pourraient inspirer aussi les gens qui nous écoutent, qui se posent la question de « moi, j'aimerais bien changer, mais finalement, je ne sais pas trop vers quoi aller ».
Alors oui, il y a des grands phénomènes. Parfois, c'est des phénomènes de mode. Parfois, c'est des tendances lourdes. Alors, il y a une tendance lourde, et je pense que tu en es très consciente, c'est il y a de plus en plus de gens qui quittent les grands centres-villes, notamment Paris, pour aller ailleurs. Et là, on voit qu'il y a un désir, mais il y a aussi une possibilité, qui est le télétravail, qui est que le train...
La facilité de déplacement, la communication aussi, qu'on peut garder, le lien qu'on garde avec les familles restées sur place.
Exactement, l'organisation aussi, la tolérance des employeurs par rapport à une organisation professionnelle qui va être plus appliquée à ça. Donc, et puis aussi, le fait qu'on soit moins dans une période de chômage de masse. Hein, quand t'as pas de boulot autour de toi, que toi t'en as un, si jamais on t'explique qu'il y a pas de télétravail, eh ben tu dis j'aime pas Paris ou j'aime pas je sais pas quoi, et eh ben j'y reste quand même. Donc ça, on voit sur la tendance longue, ça c'est très très net.
Paris, ça c'est vraiment l'évolution du travail là, ce que vous avez pu appeler la révolution du travail, enfin l'évolution des modes de travail qui permet aussi cette émancipation.
Alors ça le permet tout à fait. Il y a aussi des centres urbains qui sont arrivés, il y a aussi où s'installent les entreprises, est-ce que ce sont des entreprises à valeur ajoutée ou pas, voilà, on travaille. La question c'est, est-ce que je vis là où je travaille ou est-ce que je travaille là où j'aimerais vivre? Donc aujourd'hui, on peut se reposer plus facilement cette question-là, donc ça crée des vocations. Et puis après, on se retrouve exactement dans le cas de ta question du début. C'est ok, moi je suis parisien, je suis dans une entreprise qui est comme ci, comme ça, puis je me dis, puis le Covid arrive.
Ça a été un gros élément quand même déclencheur.
Exactement, c'est formidable d'être à la campagne, j'en ai marre des petits appartements. Ok. Et puis après, on s'en va et on se rend compte que le collègue qui était voisin de bureau, qui est là physiquement, c'est marrant, mais lui, ça fait deux fois qu'il a une promotion et puis moi, non. Et puis d'ailleurs, on lui donne un job important et puis moi, je suis moins là. Donc, donc on découvre aussi les inconvénients, c'est-à-dire que il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients qu'on n'avait pas nécessairement vus, puis on découvre aussi d'autres avantages. Donc, il y a des gens qui reviennent, et il y a des gens qui bifurquent complètement, et qui d'ailleurs, c'était juste une étape, et puis le coup d'après, ils vont chercher dans une PME régionale, un truc, et ils vont couper complètement.
Voilà. Ça va être un élément déclencheur pour un nouvel itinéraire de vie.
Exactement. Donc ça, je ne sais plus quelle était ta question. Oui, néo-ruralité, c'est... Moi, je suis en néo-rural.
On peut en parler, ouais.
J'habite dans un petit village maintenant de 650 habitants.
Et tu as quitté Paris, pour le coup, t'étais en...
Exactement. Moi, j'étais en très, très proche banlieue parisienne. Et donc, je travaillais à Paris. Je continue à travailler à Paris. J'y vais plutôt 3-4 fois par semaine. Mais j'habite dans un petit village à côté de Fontainebleau. Je prends le train pour y aller, etc. Bon, évidemment, surtout, j'espère, dans quelques semaines, quand on sortira de cette grisaille et de cette pluie permanente, évidemment qu'il y aura des moments magiques où je me dirai, mais qu'est-ce que j'ai eu raison? Mais bon, en attendant, il y a des moments où on se dit, oh là là, j'ai un petit déj à 8h du mat avec un client, je dois donner une conférence un peu tard. Bon, c'est de la logistique, c'est compliqué, parfois il faut se réveiller très très tôt. Bon, et puis évidemment, tous les imprévus, quand on est sur place et qu'on a une petite opportunité rapide qui se présente, on la saisit. Alors que quand on est à 1h30 et que les transports ne fonctionnent pas toute la nuit, il y a des moments, non. Donc, on doit choisir, c'est aussi renoncer.
C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être aussi un rééquilibrage, nous on en parle beaucoup, un rééquilibrage de, des priorités, comme tu dis, il y a ce qu'on a pu fantasmer, si je reviens à ce qu'on disait au début, ce qu'on a pu fantasmer, ce qui allait, l'imaginaire qu'on s'est créé, qui serait le but ultime qui nous plairait, et puis après il y a un moment parfois avec l'âge, la maturité, où on se dit, mais en fait ma priorité, elle est peut-être un peu différente aujourd'hui, et ça peut être l'un des facteurs aussi, nous, qu'on voit beaucoup de déviations, où on a pu faire carrière à Paris, on a adoré la vie parisienne, pouvoir sortir constamment, aller au théâtre, etc. Et puis à un moment, se rendre compte que c'est quelque chose qui ne nous convient peut-être plus, et que nous-mêmes, on a changé, et du coup, on aspire à autre chose, en fait.
Oui. Et puis encore une fois, tu parles de fantasmes. Quand on dit on aspire à quelque chose, on aspire à quelque chose. C'est-à-dire que après, alors moi on avait fait notre premier magazine, on a eu un gros chapitre sur la néo-ruralité. Bon, un petit exemple, je m'installe dans un village, il y a des champs tout autour, il y a des vrais gens de la ruralité. Enfin, c'est pas le Parisien qui débarque en disant oh tiens c'est cool la nature, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Non, donc il y a des gens qui sont des chasseurs.
Là t'es plus du tout dans une grande ville.
Ah mais pas du tout. Il y a pas un commerce dans mon truc. Donc ça flingue tout autour de mon village tout le week-end pendant les périodes de chasse. Si on veut sociabiliser avec les gens qui sont un peu dans ce mood et que on peut pas supporter l'idée de tuer un animal, ça peut être difficile. J'ai quelqu'un d'autre qui me disait oh là là moi alors qu'il a son petit potager, son machin, son truc, bon super. Enfin évidemment. Il y a des moments, les fruits et les légumes, c'est de saison, donc il y a des moments, ça pousse pas. Et avant, il allait dans son petit marché bio au coin de la rue. Là, il fait 80 bornes.
Pour y aller.
Alors, je lui ai dit, mais c'est bien, mais c'est quoi ton bilan carbone pour avoir une tomate qui fait ça? Et en fait, il me dit, il se rencontre avec d'autres. Mais donc il est obligé d'aller à un endroit où d'ailleurs t'as un peu tous les néo-ruraux qui se retrouvent et puis ils se retrouvent et quelle joie, enfin mais comme à l'époque où on descendait au café et qui est le gens du quartier, donc il y a des gens qui pensent pas comme nous, voilà, et quand en fait on va dans un monde qui est pas du tout le nôtre avec d'autres codes, il faut s'attendre à voir des gens qui ont un autre mode de vie et une vision du monde qui n'est pas complètement la même. Donc soit on est ouvert et c'est super enrichissant parce qu'on découvre des trucs qu'on n'avait jamais vus sans nécessairement, tu vois, de renoncer à toutes ces valeurs. Mais en tout cas, on s'ouvre à celles des autres. Et là, ça peut être effectivement très riche. Soit on arrive bien dogmatique, là, comme on nous apprend dans les belles universités, les machins, les trucs, et là, on va se mettre à faire des jugements, on va partir en croisade, on va coller un procès aux paysans d'à côté parce que son coq, il chante, on va dire, oh là là, les tracteurs, ça commence tôt, c'est pas possible, ma grasse mat et mon RTT, ça va pas. Et eux, ils vont nous prendre pour des... Voilà, pour des gens pas bien. Donc, en fait, chacun va rester dans son truc et ça marchera pas.
Ouais, ça, c'est oui. Quelque chose que nous, on encourage beaucoup et qui ressort beaucoup à travers les témoignages de gens qui ont choisi cette déviation néo-rurale, c'est d'essayer d'arriver avec, comme tu disais, un esprit ouvert, un minimum d'a priori et surtout de savoir faire preuve d'humilité. On a beaucoup de témoignages qui nous, voilà, qui nous disent qu'ils sont arrivés avec des idées et en fait, il faut savoir, on arrive toujours en tant qu'étranger et c'est souvent quand même à la première personne qui arrive à faire le premier pas parce que c'est aussi quelque chose qu'on encourage pour faciliter l'intégration. Hein. On arrive dans un endroit où les gens se connaissent, ont déjà une vie et ont quelque chose et nous, on vient en plus. Donc, c'est important de savoir... faire preuve d'humilité, d'aller vers les autres et de faire preuve d'ouverture, comme tu disais. Ça me semble important. Et en tout cas, c'est ce qui ressort des témoignages que nous, on peut avoir.
Je suis parfaitement d'accord.
Du coup, ça me permet d'enchaîner sur une question. Quand tu disais, effectivement, parfois, il y a un décalage entre ce qu'on avait espéré et ce qu'on vit une fois qu'on a pris la tangente. Je voyais dans un des articles que vous avez que, voilà, on dit parfois qu'il n'y a pas d'échec, il y a des apprentissages. Au contraire, il y avait un article qui disait, voilà, un échec, c'est un échec. Est-ce que le changement et les déviations sont toujours positives? J'imagine la réponse est non. Et on fait quoi si ce changement, finalement, ne nous convient pas? Est-ce que l'unique solution, c'est le retour en arrière? ou est-ce qu'il y a d'autres opportunités? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut interroger nos lecteurs, de se dire, voilà, moi, j'aimerais partir, comme tu dis, en campagne, m'installer. Mais au final, comment être sûr que la vie que je vis actuellement ne me convient pas totalement? Est-ce que la prochaine sera mieux?
Alors, il n'y a absolument aucune certitude. Et je pense qu'il y a à peu près autant de déceptions que de bonnes surprises. En tout cas, j'ai rencontré extrêmement peu de gens qui sont arrivés exactement à la destination, l'état, tout ce qui était prévu. Voilà. C'est très souvent assez différent de ce qu'ils avaient en tête. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent « je regrette pas ».
Oui, c'est un peu ce qu'on... Alors, pour le coup, on fait le même constat dans les études qu'on mène et tu as tout à fait raison, on a le même ressenti de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui envisageaient, nous on est bien sûr sur la mobilité géographique, qui envisageaient partir dans une région ou dans, en tout cas dans une zone géographique et qui finalement partent autre part pour des facteurs professionnels, familiaux ou autres. Pour le coup, on ne regrette pas forcément. Par contre, c'est important, comme tu dis, de dire que parfois, on n'atterrit pas exactement à l'objectif précis qu'on s'était fixé.
Non, non. Tout ce qui est prévision du futur, quel que soit l'exercice, c'est très... Enfin, en fait, ça ne marche pas.
On n'est pas médium.
Voilà. Non, et alors, une fois de temps en temps, on va trouver quelqu'un qui dit « bah oui, bien sûr », et tout, et puis qui va vous dire « c'est parce qu'on a très, très bien prévu ». Non, c'est juste que de temps en temps, le hasard fait que ça tombe exactement sur ce que vous aviez prévu, mais c'est du bol. Voilà. Donc, il y a tellement de facteurs. Moi, j'ai des enfants. J'ai une femme qui travaille beaucoup aussi. Voilà, il y a tellement de facteurs entre les enfants. Est-ce qu'ils vont trouver des petits copains qui leur plaisent bien à l'école? Est-ce que au club de foot ou de musique, ça sera pareil? Est-ce que on ne sait pas quoi. Voilà, on fait face et puis il faut assumer ses choix. Il ne faut pas hésiter non plus à faire des constats qui sont des constats d'erreurs et d'échecs. Effectivement, comme j'écrivais, un échec, c'est un échec. C'est pas j'ai appris, c'est cool, oui. Enfin, on apprend quand c'est un échec qui nous fait suffisamment mal pour que ça reste imprégné. Et ça, tous les gens sérieux qui font ce type d'études, aujourd'hui, le disent. Hein, c'est-à-dire, c'est l'effort ou la douleur qui fait que ça reste vraiment bien ancré. Alors parfois,
ça crée l'apprentissage.
Voilà. Après, il peut y avoir des éléments de passion qui font que non, là, de façon positive, mais c'est pas la majorité. Donc l'apprentissage, parfois, c'est dur. Voilà. Et donc un échec peut apprendre s'il fait mal. Enfin, d'autant plus qu'il fait mal, on va dire. Il y a des échecs qui apprennent et qui font pas mal, bon, très bien, mais c'est quand même pas la majorité. Donc, quand on a compris, parce qu'on l'a bien ressenti, pourquoi est-ce que, une expatriation ou alors le fait de changer tout simplement, un déménagement, un changement quel qu'il soit, ne procure pas le bonheur attendu, et qu'on a compris un peu mieux pourquoi, et ben le coup d'après, on pourra probablement être meilleur. Et si on a changé une fois, on peut se changer deux fois.
C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est qu'au final, il y a plein de changements possibles au cours d'une même vie.
Et ça, je crois que les gens qui ont expérimenté le changement une fois, même quand ça a été un échec, ils vont être moins tétanisés pour l'essayer une deuxième fois. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qui est le plus compliqué, c'est la première mise en mobilité. Que cette mobilité, elle dure toute la vie, ou ça soit plusieurs sauts de puce, ou alors un saut, boum, et après on se réétablit, on change plus. Finalement, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de se dire attends, j'ai l'impression de n'avoir jamais changé de ma vie, et donc que je suis prisonnier complètement de mon existence. Non, nous c'est pour ça qu'on a tant de témoignages pour dire bah non, écoutez, il y a des gens très normaux qui vous ressemblent beaucoup. Enfin, qui pourraient vous ressembler, qui l'ont fait, et c'est pas, faut pas être sorti de, je sais pas quelle école, parce que ça c'est fabuleux. C'est toujours plus facile pour les autres, toujours. Donc en gros, nous on a des commentaires. Alors dès qu'on a quelqu'un qui a une éducation un peu bien, qui a un métier un peu chic et tout, c'est c'est normal, c'est une bourgeoise, elle peut se le permettre, machin truc et tout. Puis on a des commentaires. Bon, la plupart sont très positifs, mais on a quand même quelques commentaires qui montrent que voilà. Et donc, ces gens-là disent « Moi, de toute façon, je ne peux pas me le permettre, donc c'est facile pour elle. » Et de l'autre côté, on a des gens qui, quand on a un changement de vie ou c'est quelqu'un d'assez modeste, on va dire, du point de vue de ses revenus qui changent, on dit « Bah oui, mais c'est facile, elle n'a rien à perdre. » Toujours plus facile pour l'autre.
Toujours plus facile. Mais comme tu dis, effectivement, je pense que ce qui ressort totalement, et ça, je pense que c'est quelque chose que les gens peuvent comprendre quand ce soit un changement mobilité géographique, mobilité professionnelle, même un changement que certains pourraient considérer minime, le plus dur au final, et nous, c'est ce qui ressort dans plusieurs témoignages, c'est finalement d'oser se lancer. Et que généralement, à partir du moment où on se dit qu'on va le faire et qu'on met en place les étapes pour y arriver, généralement... Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, mais il faut oser passer ce cap de se dire je me lance et j'accepte que ça va changer et que ça va peut-être pas être exactement comme je l'avais imaginé. Et du coup, ça me fait une bonne transition pour notre fin de se dire quels seraient pour toi les conseils que tu voudrais partager. Il y a beaucoup de gens, mais exactement comme tu dis, on a beaucoup de gens qui nous écoutent parce qu'ils ont besoin de ces portraits, de ses inspirations pour se projeter et de se dire mais si eux l'ont fait, finalement son histoire elle est pas très différente de la mienne, du coup ça veut dire que peut-être que moi aussi je peux le faire. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui aujourd'hui hésitent, ont peut-être peur de changer ou ne savent pas quelle direction prendre? Est-ce que tu aurais deux conseils, trois conseils pour conclure, pour inciter ces gens-là à le faire ou à ne pas le faire s'il ne faut pas le faire?
Voilà, je commencerai par ça, c'est-à-dire que le changement c'est pas obligatoire. Et parfois c'est même déconseillé. Donc un, soyez conscient avant de vous lancer de qui vous êtes, connaissez-vous, et soyez conscient de votre position, parce que on n'est jamais content. Hein. L'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté.
Plus verte.
Exactement. Donc on se rend compte généralement de ce qu'on a quitté au moment où on l'a quitté. Et là on dit ah non mais j'aimais bien, bah oui mais attention à tous ceux qui brûlent leur vaisseau, hein, comme on dit dans la marine. Hein. C'est j'ai traversé la Manche et j'ai cramé mes bateaux. Bon bah là maintenant il va falloir que ça te plaise, hein, parce que ton bateau il est
j'ai
cramé.
Pas de solution retour.
Voilà. Donc les gens qui se barrent en insultant tout le monde, en se fâchant avec tout le monde, en divorçant avec fracas, très bien. Mais ça vous fait peut-être du bien parce que la colère fait partie des choses. C'est un exutoire. Mais, faites gaffe, quoi. Méfiez-vous de votre intuition. Alors ça, c'est le conseil numéro un. La petite voix intérieure qu'il faut écouter, machin, c'est des conneries. Voilà. Donc, c'est bien. L'intuition, en fait, c'est une somme. C'est l'expérience sédimentée dans votre cerveau qui va, par rapport à un phénomène, le comparer automatiquement avec ce que vous avez vécu pour dire « Oh, oh là là, ça me plaît ou ça me plaît pas ». Donc, quand l'expérience d'avant, ça s'est mal passé pour un détail et que votre cerveau voit le même détail, même si c'est ça, il va vous dire « j'aime pas la voix de cette personne, elle doit être malhonnête ». Parce que ça vous rappelle la voix de quelqu'un qui était malhonnête. Mais ça se trouve, c'est la même voix, mais avec quelqu'un d'honnête. Et vous, vous allez vous fier à la voix, ce qui n'a rien à voir. Donc, attention à cette intuition, attention à tous ces charlatans qui vous disent que bah, tout est quasiment mystique, quoi. Oui, voilà, alors, c'est bien, il y a toujours une dose de spiritualité, et nous sommes des personnalités, enfin des êtres spirituels, donc il ne faut pas nier ça. Maintenant, tout mettre dans l'appréciation des signes, des machins et des trucs, ça marche auprès de certaines personnes, ça ne marche pas auprès de beaucoup de personnes. Donc, il faut faire ça de façon... ça, c'est bien pour se lancer, pour déclencher quelque chose et pour se rendre compte que ça ne va pas. À ce moment-là, on a envie de chercher autre chose. Mais au moment de se lancer, il faut faire les choses très sérieusement. Il faut écouter les autres.
Ah ben, on rejoint les mêmes conseils sur la réflexion, de bien réfléchir à ce qu'on vit actuellement, mesurer ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas, et projeter ce qui pourrait nous plaire et ne pas nous plaire dans la vie future, et faire la balance entre chaque pour vraiment voir si les choses s'équilibrent, parce qu'il ne faut pas non plus idéaliser, ça on le dit beaucoup, ne pas idéaliser la destination qu'on vit.
Mais même vous, il ne faut pas vous idéaliser, vous. Nous, on a plein de commentaires sous nos films, « Ah, c'est comme moi, c'est comme moi », c'est des gens qui ne parlent que d'eux. Et ils se regardent tout le temps, ils sont tout le temps dans l'introspection, et ils cherchent leur bonheur à l'intérieur. Mais non, le bonheur, c'est aussi une interaction avec les autres. Donc, la vie des autres, l'apostrophe, le fait leur jugement sur vous-même, parfois, il est désagréable. Parfois, il est outrancier, il nous fait bien plaisir, mais c'est de la flatterie. Mais en attendant, quand on prend le soin d'aller en voir plusieurs, d'écouter, de machin, quand vous avez 15 personnes qui sont censées vous connaître et qui vous disent, les 15, que vous avez le même défaut, bah, il faut l'écouter quand même.
À un moment, oui, il faut se poser la question, effectivement, et savoir se remettre en question, comme tu disais, savoir s'auto-critiquer et entendre la critique que peut être celle des autres.
Donc, en gros, quand vous arrivez à mieux vous comprendre, à mieux savoir qui vous êtes, quels sont vos points forts, vos points faibles, et ben, finalement, vous dites, bon, j'ai peut-être une distorsion de perception de la réalité, je me vois comme ça, mais les autres me voient comme ci. Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Est-ce que ça veut pas dire que j'idéalise tout et que je risque d'être déçu? Donc, si vous avez ça comme trait de caractère, allez demander conseil à des gens qui voient parfois le verre plutôt à moitié vide. Au contraire, si vous avez peur de tout en permanence et que le changement, c'est quelque chose de dramatique pour vous, allez voir des gens qui vous inspirent en voyant les choses du bon côté. Mais ne singez pas la vie des autres.
Ouais, savoir se confronter aussi à ce qui ne nous correspond pas et ce qui est différent de nous.
Voilà. Et donc, le principe du meilleur copain ou de la meilleure copine qui, elle a changé, elle est devenue ça, ou il a changé, il est devenu ci, et ça lui plaît beaucoup, je vais faire pareil parce que j'ai pas d'idée. Ben non, ça marche pour lui ou elle, mais ça marche pas forcément pour vous. C'est du matching, hein.
Par rapport à soi.
Et expérimenter, si vous pouvez expérimenter, c'est bien. Faites des petits pas, projetez-vous. Vous voulez déménager, commencez déjà par partir en vacances dans le lieu plusieurs fois. Pas juste un week-end génial dans un super hôtel avec votre chérie.
Je pense que ça rejoint totalement les conseils qu'on donne. C'est du coup toujours sur la mobilité géographique, mais de savoir tester un territoire au-delà de l'image de carte postale et des vacances qu'on peut avoir, c'est d'y aller par
allez-y en hiver, plein
hiver, là où il n'y a personne. Allez-y par jour de tempête, de grand vent, si c'est en bord de mer. Ça, c'est vraiment, je pense, effectivement un bon conseil de se confronter à une autre image que celle qu'on peut avoir de la destination finale.
Ouais.
Ok, écoute, merci pour cet échange riche, intéressant. Je pense que du coup, on peut continuer à aller lire un maximum de déviations sur votre site, en podcast également, je crois. Et dans le magazine. Aussi. En vidéo également.
Ouais, vidéo beaucoup, notamment sur Facebook, où c'est là où on fait les plus belles audiences. Mais on est aussi sur Instagram, on est aussi sur notre site internet, on est sur YouTube.
Du coup, plein de déviations et plein de récits inspirants pour voir ce qui est positif, mais aussi ce qui peut être à réfléchir avant de changer.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Laurent, et à très bientôt.
À bientôt, Laura.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, @ParisJeTeQuitte, ou vous rendre sur notre site parisjetequitte.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent, la recherche d'emploi ou de logement. À bientôt dans Paris, je te quitte, le podcast.